Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Anglais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Le tourisme international, après une année noire, est en train de reprendre timidement espoir, François.
Oui, c'est vrai, disons, il y a deux éléments qui laissent entrevoir une amélioration progressive. D'abord, quand même, les progrès de la vaccination. Bon, ils sont encore timides en Europe, mais ils sont réels. Hein. En France, cette semaine, on est aux alentours de 12% de la population. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Mais en tout cas, on progresse pas à pas. Et puis, l'annonce faite cette semaine au cours du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, par Thierry Breton, le commissaire européen, de la mise en route d'un certificat sanitaire européen qui serait en principe disponible en juin, avant les vacances. Il se présentera sous une double forme, papier et électronique. On pourra le charger sur son smartphone avec un QR code qui permettra de prouver soit que vous vous êtes fait vacciner, donc que vous êtes protégé de la maladie, soit que vous l'avez déjà eu et que, au même titre, en principe, vous êtes aussi immunisé, ou bien que vous avez fait un PCR qui, justement, garantit que vous n'étiez pas contagieux. Donc, c'est pour limiter les risques de contagion. Cela dit, d'autres pays européens, comme le Danemark, par exemple, ou la Grèce, travaillent à leur propre dispositif. Donc, c'est un peu perturbant parce que on ne comprend pas encore très bien comment les certificats nationaux éventuels vont s'articuler avec le certificat européen. Est-ce que tout va se fondre dans un ensemble ou est-ce que les frontières européennes vont admettre justement différents documents? Ça risque d'être un petit peu la pagaille.
Alors tout ça, ça veut dire que les frontières ne seront vraiment ouvertes qu'aux personnes qui auront au moins une des preuves, enfin un de ces certificats qui sont en cours d'élaboration?
Ah, c'est tout à fait possible. En fait, il y aura deux moyens de présenter ces preuves à la frontière, théoriquement. Le certificat européen, donc en papier ou en électronique, qui permettra des passages accélérés, bon, d'avoir des coupes-files, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de contrôler, notamment sous une forme électronique avec le QR code, ou bien les moyens traditionnels, les bons vieux certificats de PCR qu'on utilise maintenant depuis plusieurs mois, mais avec le risque de faire la queue pour être contrôlé, et puis éventuellement avec le risque d'une quarantaine, soit à l'aller, soit au retour, même au sein de la zone Schengen. On a appris cette semaine que l'Italie vient d'imposer une quarantaine aux voyageurs venant de l'Union européenne. Donc c'est quand même le signe que la méfiance reste très élevée et que la peur de la contagion reste bien sûr élevée. L'Allemagne a renforcé ses contrôles aussi pour les Français il y a quelques jours. Reste quand même que ces dispositifs devraient permettre de réduire les risques et du coup, ou l'hostilité de la population aux transhumances estivales, parce que c'est un autre problème. Au-delà même des risques réels, il y a les réactions psychologiques que ça suscite dans les pays d'accueil. Cette semaine, c'est la semaine sainte, hein, avant Pâques, en Espagne. De nombreuses manifestations sont traditionnellement prévues, notamment à Séville, qui font venir beaucoup d'étrangers, et notamment beaucoup d'Allemands qui arrivent massivement. Et les Espagnols sont dans une situation un peu absurde, parce qu'eux-mêmes sont victimes de restrictions importantes, ils n'ont pas le droit de passer d'une région à l'autre, alors que les Européens qui débarquent pour être en vacances, eux, ne sont pas soumis aux mêmes règles, d'où quand même un ressentiment assez fort, sans compter aussi les jeunes Français qui viennent aller au restaurant ou faire la fête à Madrid, ou les footballeurs, on en a vu, qui se comportaient quelquefois de façon assez bruyante, qui débarquent à Madrid et qui indignent un peu la population locale, d'autant que ça peut aussi se passer dans des Airbnb pour faire des fêtes clandestines, donc on ne comprend pas très bien du côté des citoyens espagnols qui est deux poids, deux mesures. Le premier pays à avoir rouvert officiellement ses frontières aux touristes vaccinés sans quarantaine, c'était le 17 mars dernier, c'est quand même un signe positif. Il est européen, mais il n'est pas dans l'Union européenne. C'est l'Islande, cette petite île au nord de l'Atlantique, 330 000 habitants, donc qui avait pris des mesures très restrictives, bien sûr, justement compte tenu de l'exiguïté du territoire et des moyens sanitaires qui ne sont pas énormes. Le tourisme, c'est énorme pour l'Islande, c'est 8% du PIB. En fait, on a découvert cette île au moment de l'explosion du volcan qui avait un nom imprononçable, je ne me risquerai pas à vous le donner, c'était en 2010. Mais du coup, les touristes américains et britanniques notamment arrivent massivement. En 2019, c'était la dernière année normale, l'Islande a reçu 2 millions de touristes, c'est-à-dire 7 fois plus que d'habitants, c'est énorme. Mais attention, c'est intéressant d'ailleurs, parce que l'Islande exige bien sûr un vaccin, mais un vaccin homologué par l'autorité de contrôle européenne. C'est-à-dire que si on se présente à la frontière islandaise avec un vaccin russe ou chinois, on n'est pas accepté.
Alors, est-ce qu'on sait, François, aujourd'hui, dans quelle proportion le tourisme européen a vraiment été affecté par toute cette crise qui a couru au cours de l'année 2020 et qui se poursuit en 2021 ?
C'est considérable. Sur l'année 2020, il y a un ordre de grandeur qu'il faut retenir. Il est valable à peu près dans tous les pays du monde. C'est moins 75%. Alors, ça varie. Quelquefois, c'est 80, quelquefois, c'est 70 ou 65. Mais l'ordre de grandeur, c'est que les trois quarts des flux touristiques, ça correspond d'ailleurs aux statistiques des vols aériens, hein, qui ont vu aussi les trois quarts des liaisons disparaître. C'est très significatif. Ça l'a été surtout en Grèce, en Espagne, un petit peu moins en France et en Allemagne. Alors, c'est d'autant plus problématique que le tourisme représente pour les pays européens 11 à 15% du PIB. C'est énorme et un emploi sur 6, même en France. Hein. Et en fait, quand on compare d'ailleurs l'évolution du PIB et la morsure effectuée par l'épidémie sur le tourisme, on voit que c'est à peu près comparable. En gros, plus le poids du tourisme est important, plus la récession a été forte, évidemment, parce que justement, trois quarts de l'activité de ce secteur a disparu. Évidemment, ça c'est pour les statistiques nationales. Après, c'est plus intéressant de regarder au niveau régional. En France, par exemple, les provinces, les régions, les territoires, comme dirait notre Premier ministre, n'ont pas été tellement affectés. Ça a été compensé pendant l'été avec les déplacements des Français, mais c'est Paris-Île-de-France qui a subi un vrai choc, notamment avec la fermeture d'Euro Disney. 33 millions de touristes en moins en 2020 et plus de 15 milliards d'euros de recettes envolées. On a appris ça cette semaine. À Rome, par exemple, alors effondrement du marché immobilier, notamment dans le centre historique de la ville, qui se tenait quand même jusque-là assez bien, pour une raison toute simple, c'est que les prix de location Airbnb ont été divisés par 2 à 3. Or, c'est des appartements privés qui appartenaient à des gens qui s'étaient souvent endettés pour les acquérir, dans l'espoir justement de faire venir des touristes de plus en plus avec des prix toujours plus élevés. Et puis, brutalement, le marché se retourne, ça les contraint à vendre à la hâte les appartements qu'ils avaient acquis avec un crédit. Du coup, ça pèse sur les prix. C'est tout le marché immobilier romain qui en subit les conséquences. C'est la même chose à Venise, où les prix de l'immobilier et les prix des locations Airbnb s'effondrent aussi. En Espagne, 500 hôtels ont fermé. Donc là aussi, c'est assez important. Ça se redresse un petit peu ces temps-ci à l'occasion de Pâques. C'est vrai que les vols de la Lufthansa pour les Baléares en Espagne sont pleins pour Pâques. Et alors, les transporteurs aériens, au vu de la demande, ont voulu augmenter la fréquence des vols, mais le gouvernement a freiné en disant « Attention, pour des raisons sanitaires, on ne peut pas prendre le risque qu'il y ait un exode massif ». C'est la même chose au Royaume-Uni, d'ailleurs. Là aussi, les réservations sont en pleine santé, mais au point que le gouvernement projette de mettre des amendes aux citoyens britanniques qui partiraient à l'étranger dans des zones affectées. Le gouvernement voudrait d'ailleurs rétablir le système de couleurs, c'est rouge, orange, vert, correspondant à une classification du risque sanitaire de façon à orienter les flux britanniques dans les bons endroits, si je puis dire.
Et alors, il y a une véritable course de vitesse qui s'est engagée sur le calendrier de la vaccination. Est-ce qu'on sait maintenant si ce calendrier sera terminé, enfin s'il y aura un maximum de gens qui seront effectivement vaccinés pour partir en vacances ?
C'est difficile à dire parce que, bon, si on écoute les officiels européens, notamment Thierry Breton, les deux tiers des adultes devraient être vaccinés pendant l'été. Le problème, c'est que les réservations se font avant. Donc, est-ce que vous pouvez prendre le risque de faire une réservation alors que vous n'êtes pas sûr d'avoir un vaccin, que vous vous êtes fait refouler de centres de vaccination faute de rendez-vous, faute de doses ? Du coup, on voit que les réservations actuellement sont assez bas pour l'été. En revanche, elles sont bien meilleures à l'automne et notamment de la part des seniors, qui sont les populations où le taux de vaccination est le plus élevé, qui n'ont pas la contrainte des vacances scolaires, qui ont généralement, au moins en France, un pouvoir d'achat relativement élevé, et puis qui ont été confinés quand même pendant un an et qui ont envie de prendre un peu le soleil. Donc il est possible que la saison estivale soit un peu décalée, au moins pour ce qui est des voyages touristiques en Europe, et que pour le reste, elle se déroule un petit peu comme l'année dernière, c'est-à-dire beaucoup à l'intérieur des frontières nationales. Alors évidemment, les pays les plus dépendants du tourisme, comme la Grèce par exemple, sont désireux de contourner ce risque, et la Grèce envisage par exemple de signer un accord spécifique avec le Royaume-Uni, avec des garanties sanitaires bien précises qui permettraient justement une sorte de corridor qui permettrait aux réservations de s'effectuer dès maintenant pour pouvoir garantir son été. En réalité, alors on parle évidemment de la vaccination des touristes, mais il y a aussi la vaccination des locaux qui est importante parce que dans la tête de quelqu'un qui justement est vacciné ou a un certificat, au fond, il va peut-être avoir tendance quand même à choisir des destinations les plus sûres. Et de ce point de vue, il peut faire aussi attention au fait qu'une partie importante de la population est vaccinée. Alors, pour Israël, du coup, le pays est très compétitif au plan du tourisme. Il y a non seulement le soleil, mais une sécurité sanitaire élevée. Idem pour Dubaï, hein, ou les Émirats Arabes Unis, qui ont là aussi cartonné en termes de vaccination. En revanche, des pays comme la Grèce ou l'Espagne s'inquiètent justement de la lenteur des programmes de vaccination européens à cause de ça.
Oui, et d'ailleurs, en France, Valérie Pécresse, pour la région Île-de-France, demande à ce que tout le personnel qui travaille dans le secteur du tourisme soit vacciné prioritairement.
Oui, c'est un élément de compétitivité.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.